La vie des pays. La vie des pays. CFM.
C'est bon? Allez, hop, c'est la bulle de poids. La bulle de poids en extérieur, puisque je suis quelque part autour de Villefranche, sur une petite route de campagne dans ma voiture. Et je vous emmène rencontrer un monsieur qui cultive la terre avec une technique particulière. C'est une agriculture particulière qui s'appelle la biodynamie. Voilà, donc on va rencontrer monsieur Didier Valette. Et je vous emmène. Allez, hop, en route. Ça y est, je suis sortie de ma voiture et je me suis mise au chaud. On est autour d'une tisane au coin de l'Insert. Bonjour Didier.
Bonjour Colline.
Je suis bien contente de faire ce petit reportage avec toi parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de faire découvrir aux auditeurs l'agriculture biodynamique et que je pense qu'il fallait quelqu'un d'un peu calé pour en parler parce que je crois que j'aurais dit des choses trop approximatives. Peut-être avant que tu nous parles un peu plus d'agriculture biodynamique et de ce que c'est exactement, tu peux nous dire depuis combien de temps tu es paysan ou agriculteur en agriculture biodynamique?
Alors, il faut faire une petite soustraction. Donc, 2012, j'avais commencé en 1986, donc ça fait 26 ans.
D'accord.
Voilà.
Attention,
un quart de siècle.
Il y a de l'expérience derrière, alors. OK. Et tu cultives quoi?
J'avais commencé en 86 à cultiver des légumes, et maintenant, je ne cultive que des plantes aromatiques et médicinales.
D'accord.
Comme on dit.
T'es herboriste?
Non, non.
Non, c'est pas ça.
Non, l'herboriste, c'est celui qui utilise les plantes. C'est pas forcément celui qui les cultive.
D'accord. Donc toi, tu es producteur de plantes aromatiques et médicinales.
Voilà, producteur de plantes aromatiques et médicinales. On dit aussi plantes à parfum aromatiques et médicinales.
D'accord.
PPAM.
Et alors, du coup, pour ces PPAM, tu as choisi une méthode de culture particulière, une forme d'agriculture particulière, et c'est l'agriculture biodynamique.
Disons, c'est pas pour ces plantes que j'avais choisi, c'était au départ déjà pour des légumes, donc c'est parce que c'est une méthode d'agriculture qui me parlait complètement, qui correspondait à ce que je voulais faire. C'est une méthode agricole qui existe depuis maintenant presque un siècle, parce que les bases ont été données en 1920. À cette époque-là, on n'était pas encore dans les formes d'agriculture très, très modernes qu'on connaît maintenant, qu'on appelle agriculture conventionnelle ou agriculture chimique. Mais on était quand même, à la sortie de la guerre de 14-18, trouver des formes d'agriculture très productivistes pour renourrir l'Europe qui avait été très, très décimée par la guerre. Et donc, on était vraiment à la transition d'une agriculture très traditionnelle, qui produisait peu, qui était très... où il n'y avait pas beaucoup d'agronomie, les paysans faisaient par habitude, ils faisaient comme le père avait fait, comme le grand-père avait fait, ils ne s'intéressaient pas vraiment à la structure des sols, à des choses comme ça, ils faisaient l'intuitif et puis sur ce qu'on avait toujours fait. Cette forme d'agriculture, donc l'agriculture biodynamique, qui est apparue en Allemagne dans les années 1920, était la première forme d'agriculture qui parlait d'écologie. C'est-à-dire qui repositionnait le paysan au milieu de la nature, qui positionnait la plante au milieu des autres plantes, l'animal au milieu des autres animaux et des plantes, c'est-à-dire chaque élément de la nature, chaque élément vivant, comme une partie d'un grand tout. Donc c'est des choses, l'écologie n'est apparue en tant que science que dans les années 1960, je crois vraiment en termes d'écologie, avec des messieurs comme Jean-Marie Pelt qui ont fait beaucoup de travail universitaire là-dessus, mais en 1920, on ne connaissait pas encore le terme écologie quelque part, c'est-à-dire l'étude d'un milieu. Et l'agriculture biodynamique était vraiment une forme d'agriculture qui... quand on cultive une betterave, eh bien on ne regarde pas que la betterave, on regarde tout ce qu'il y a autour, on fait des associations de plantes. C'était même une écologie beaucoup plus lointaine que terrestre, parce que on allait voir jusqu'au cosmos ce qui pouvait influencer la betterave, c'est-à-dire les planètes extérieures à la Terre qui pouvaient l'influencer.
Comme alors, c'est vrai,
comme la Lune, par exemple, influence les marées. Disons, comme une aiguille aimantée, quand elle indique le nord, elle est en relation avec quelque chose qui est très éloigné d'elle. Mm-hmm. On ne peut expliquer l'orientation de la boussole qu'en allant voir très loin. Et on ne peut expliquer comment pousse une betterave aussi qu'en allant voir très loin, peut-être au fond du sol, mais aussi très loin dans le ciel. Donc il y a eu cette notion qui a été amenée par l'agriculture biodynamique que maintenant beaucoup de gens suivent, hein, parce que maintenant c'est rentré un peu dans les mœurs. Il y a des calendriers lunaires pour faire le jardin, des choses comme ça. Mais en 1920, c'était quelque chose de très nouveau. Et même chez nous, en France, ça fait pas si longtemps que tous ces calendriers lunaires se sont développés, une vingtaine d'années, disons. Le principe aussi qui est devenu le principe de l'agriculture biologique après, c'est-à-dire qu'une plante devait être nourrie par des produits qui ne soient pas des produits minéraux, c'est-à-dire des produits chimiques qui se dissolvent dans l'eau, genre des nitrates ou des phosphates ou des sulfates. Elle devait être nourrie par des composés naturels, organiques. Voilà. Ça a été aussi, en 1920, si on veut, la première forme d'agriculture biologique qui existe. Et quand on dit biodynamique, le terme allemand, puisque ça a été créé en Allemagne, c'était biologische dynamische, c'est-à-dire biologique dynamique. Et le biologique, donc, ça voulait dire qu'on respectait la vie et qu'on n'utilisait pas de produits issus du monde de la chimie, c'est-à-dire d'un monde non naturel, si on veut, hein. Et dynamique, ça voulait dire qu'on avait des méthodes pour augmenter, alors dynamisme, derrière dynamisme, il y a le terme grec qui veut dire force. Et la dynamique, là, c'est aussi la mise en mouvement. Il ne peut y avoir mise en mouvement que s'il y a des forces. C'est ce qu'on apprend au lycée ou au collège,
physique,
en physique. Voilà. Donc la dynamique, c'est quelque chose qui est en relation avec les forces. C'est qu'on va travailler sur les forces vitales des végétaux ou des animaux dont on va s'occuper. Alors, là, pour travailler sur ces forces, on a à notre disposition différentes... Bon, on ne peut pas rentrer en 5 ou 10 minutes dans des explications vraiment...
Tout à l'heure, tu me disais qu'il va falloir que je te résume en un quart d'heure ce que je mets d'habitude 2 jours à transmettre aux gens.
Oui.
Donc voilà,
oui,
j'imagine bien qu'on ne va pas aller...
Voilà, parce que chaque chose qu'on fait a un pourquoi.
Par exemple, tout à l'heure, tu disais que l'agriculture biodynamique, elle envisage la betterave dans son milieu. Est-ce que, du coup, la ferme est considérée comme un milieu avec un équilibre ?
Totalement, totalement. Dans le principe, dans la théorie, dans le cheminement vers lequel on essaye d'aller, c'est que une ferme doit être un espèce d'organisme agricole, c'est-à-dire un organisme ayant plusieurs organes, c'est-à-dire que chaque partie de la ferme va apporter une dimension, va apporter une force, va apporter un équilibre. Si on a une seule espèce végétale sur sa ferme, on est forcément en déséquilibre quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'écologique. L'écologie, ça veut dire qu'on ait un maximum de substances végétales, qu'on ait des animaux aussi. Donc ça peut être des animaux d'élevage, mais aussi qu'on ait une faune sauvage la plus importante possible. Ça ne devient plus un ennemi, la faune, comme elle est souvent un ennemi dans l'agriculture normale, où on va combattre le sanglier, on va combattre
les limaces,
on va tout combattre, les pucerons. Et alors qu'on considère que là on digresse un petit peu, mais si on a un envahissement d'un parasite quelconque, que ce soit des rats aux pieds, des lièvres, des chevreuils, des pucerons, c'est qu'il y a un déséquilibre du milieu. Alors on n'est pas forcément la cause du déséquilibre du milieu, parce qu'il y a tout l'environnement. Et donc c'est en retravaillant sur l'équilibre du milieu, en ayant le maximum de haies, en ayant des arbres fruitiers pour les abeilles, en ayant toute une mare pour des crapauds, des tas de bois pour les hérissons, des animaux pour faire du fumier aussi et faire du compost après. C'est en jouant sur tout cet environnement naturel qu'on peut maintenir un équilibre du milieu et ne pas avoir de maladies et avoir des plantes qui poussent bien. Qui ne soit pas malade, qui soit en bonne santé, sans avoir à aller chercher, même dans des produits naturels, des médicaments. Le médicament par lui-même est l'équilibre naturel de la ferme. La nature se suffit à elle-même. Tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu, on a abordé de la lune, tout ça, mais c'est un peu secondaire dans les pratiques. Donc la première pratique, on peut dire, c'est d'avoir, essayer d'avoir un domaine le plus équilibré possible. Donc essayer d'avoir quelques animaux, essayer d'avoir plein de variétés végétales, des haies, voilà, différents milieux même, parce que ça peut se créer même sur un petit jardin, on peut créer une petite mare naturelle dans un coin. On peut toujours créer, ça peut être un petit milieu ponctuel, mais qui va attirer des libellules, qui va attirer... on peut, s'il y a un coin un peu plus sec, au contraire, travailler sur ce coin sec pour avoir des mantes religieuses. Quand on est en plein cœur de Paris, où c'est peut-être un peu plus dur, mais à Villefranche-de-Rouergue, il n'y a pas de problème. On est quand même... La campagne est toujours là, donc les insectes, ils sont pas loin. Donc on va... En tout cas, pour essayer d'augmenter les forces des plantes et donc des animaux qui vont les manger après, donc des humains qui vont se nourrir avec ça, on va travailler déjà avec des plantes médicinales. Donc on a une base de 6 plantes médicinales qu'on utilise, qu'on va dynamiser d'une certaine manière. Bon, là, après, je vous dis, forcément, je schématise, voilà. Mais on va utiliser 6 plantes médicinales, qui sont l'achillée millefeuille, la fleur de pissenlit, la fleur de camomille, la fleur de valériane, l'écorce de chêne et l'ortie. Ces 6 plantes qui ont des propriétés différentes quand on les utilise au niveau médical et qui sont en rapport aussi, alors ça, bon, ça demanderait à développer, chaque plante est en rapport avec une qualité planétaire particulière. Mm-hmm. Bon. Par exemple, tu me parlais de plantes tomates malades. Alors on sait très bien que les plantes, et moi je l'ai vu, les plantes quand elles sont attaquées par un parasite, et sont déjà capables de se défendre elles-mêmes parce que leur racine va émettre des substances qui sont type phéromones, comme les substances qu'émettent les abeilles pour communiquer. Donc ce sont des substances chimiques, entre guillemets, disons, hein, ce sont des molécules particulières qui vont éloigner l'insecte qui les attaque déjà, qui vont les protéger, et en même temps qui préviennent les plantes à côté qu'il y a une attaque. Et ça, c'est des trouvailles scientifiques. Hein. Y a un livre universitaire magnifique qui met un gros pavé qui parle de toutes ces dernières trouvailles scientifiques. Ça s'appelle « Guerre et paix dans le règne végétal ». Donc, qui parle justement des plantes qui cèdent et ainsi de suite. Et la plante qui est attaquée va prévenir la plante à côté qu'elle a attaquée. La plante à côté va déjà émettre la substance qui la protège avant d'être attaquée. Et moi, j'ai vu sur des cultures de haricots, par exemple, de haricots verts, quand je cultivais des légumes. Au début, que je pratiquais la biodynamie, j'avais encore peur de la maladie. Je regardais, j'avais un pied de haricots verts tous les 10 mètres qui avait plein de pucerons, noirs de pucerons. Oh, oh là là! Panique à bord, les pucerons arrivent, les pucerons attaquent, Star Wars,
tari,
on sort la mitraillette, qu'est-ce que je vais faire? Je fais du bio, j'ai pas d'insecticide. Ah ben là, il y a un insecticide qu'on peut faire en bio, vite, roténone ou pyrétrine, on pulvérise, ça marche plus ou moins. Et puis une année, je me suis dit, je sais pas, j'ai peut-être pas eu le courage de le faire ou j'en avais marre. Je me suis dit, je vais attendre, je laisse. Et bizarre, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, j'avais un pied de temps en temps qui était noir de pucerons, et les pucerons, ils restaient sur ce pied. Ils n'allaient pas sur les autres pieds. Comme si le pied... Alors, le pied malade, bon, la plupart du temps, il était tellement noir de pucerons qu'il crevait.
Oui.
Hein, il ne survivait pas ou il n'allait pas donner de haricots. Mais les pieds d'à côté, ça ne posait pas de problème. Et j'avais eu peur, parce que quand même, c'était mon gagne-pain. Donc, si toute la culture était envahie, je me disais... Et je me suis rendu compte que la plante, si elle était dans de bonnes conditions, elle pouvait se protéger, et surtout de prévenir les autres, qui du coup se protégeaient à l'avance, et il n'y avait pas de pucerons dessus. Et au bout de plusieurs années où j'ai laissé faire, eh bien, il n'y avait plus jamais de pucerons sur mes haricots. Les pucerons ne venaient plus, les plantes étaient devenues, le terrain était équilibré, les plantes... Parce qu'en fait, quelque part, quand on va utiliser un médicament, comme on utilise une canne, la personne qui a l'habitude de marcher avec une canne, elle va avoir peur de marcher sans la canne. Donc, quelque part, c'est un peu la même chose. Disons, c'est des images, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir, mais dans la nature, c'est un peu la même chose. Si on ne laisse pas la nature aller son chemin, se défendre elle-même, elle va perdre l'habitude de se défendre. Et donc, elle aura toujours besoin de cannes, de béquilles, d'insecticides, même s'ils sont végétaux, autorisés par l'agriculture bio, et ainsi de suite. On n'aura pas équilibré le terrain. Donc, nous, pour augmenter ces forces d'autodéfense des plantes, on va utiliser le pissenlit. Et chaque plante va avoir une action comme ça.
D'accord.
Chaque plante qu'on va utiliser, alors ce sont des plantes qu'on dynamise d'une certaine manière, qu'on utilise en toute petite quantité, vraiment une pointe de couteau pour 5 mètres cubes de fumier, 5 mètres cubes de compost, donc ça ne fait pas grand-chose. Une pointe de couteau de chaque plante qu'on met dans le compost, et puis on laisse comme ça le compost se faire, le fumier se transformer en terreau, disons. Donc voilà, une première chose propre à l'agriculture biodynamique, de stimulation des forces.
Merci Didier. On se retrouve la semaine prochaine autour d'une tisane et au coin du feu pour continuer cette découverte de la biodynamie. D'accord ? À bientôt.
La vie des pays, CFM.